Bonjour, bienvenue, ici Bethléem Hickman et Michel Bédard. Donc bienvenue pour cette nouvelle édition de Troisième Planète, où on vous parle d'environnement et de société sur Sekaya 88.3. Donc cette semaine, c'est la rentrée des classes. C'est la rentrée des classes pour les tout-petits et bientôt pour les grands. On a parlé d'éducation à l'environnement sur cette antenne comme élément essentiel pour changer les comportements. Alors ça se passe chez les jeunes, mais ça se passe aussi quand on est plus vieux, quand on rentre à l'université. Et c'est aujourd'hui, j'ai avec moi deux invités. Pierre Lemay, adjoint au vice-recteur exécutif et au développement à l'Université Laval, et Marie-Michèle Couture, conseillère en approvisionnement responsable. Bonjour Pierre.
Bonjour.
Alors, comme j'ai dit, on va parler de bien plus que d'environnement, mais de développement durable à l'Université Laval. Et avant de commencer, j'aimerais qu'on ait un peu un portrait de ce que représente l'Université Laval. Finalement, c'est presque comme une ville dans la ville. Quelques chiffres pour nous donner une idée un peu plus concrète.
Oui, bien sûr. Bien, on nous appelle souvent la cité universitaire. C'est vrai qu'on est une petite ville dans la ville. Pour vous donner quelques idées, bien, c'est 7,2 millions de pieds carrés de bâtiments répartis dans une trentaine de pavillons et autres bâtiments sur le campus. C'est 70 à 75 d'espace vert sportif ou boisé. C'est 50 000 personnes donc qui sont là pratiquement quotidiennement. C'est plus ou moins une quarantaine de milliers d'étudiants qui proviennent d'environ 80 nationalités différentes. Donc, ça a des impacts dans la façon dont on présente les choses. Environ 4 600 étudiants étrangers aussi. Donc en termes de développement durable et environnement, ben c'est 141 millions de kilowattheures d'électricité consommée l'année dernière. C'est 1553 tonnes de déchets, dont à peu près 600 sont revalorisés sous forme de compost ou de papier recyclé ou de plastique vert métal également dans notre programme de récupération. Donc, c'est effectivement une grande organisation là, dans la région.
Ouais. Donc, plus que de la gestion, je dirais, d'espaces verts ou de pieds carrés, c'est aussi la gestion de personnes et d'un environnement, et puis de l'intégration aussi dans la communauté. Le développement durable, c'est pour vous chercher à améliorer la qualité de vie des personnes sur le campus, tout en contribuant à faire progresser la communauté et en maintenant de saines finances. Alors, on a du mal à imaginer pourquoi tout ça crée un tout. C'est quoi le lien, finalement?
Ben le grand lien, comme tu l'as dit, c'est vraiment la qualité de vie là, des personnes, puis notre communauté. Mais on le fait en agissant sur trois grands pôles ou trois grands piliers de notre vision de développement durable. Donc, des interventions sur le milieu de vie des gens. Donc, la communauté universitaire, ben, c'est un milieu d'études, de travail, puis on a 2400 personnes en résidence qui vivent aussi également.
Des chercheurs aussi.
Des chercheurs aussi également, donc qui cherchent toutes sortes de choses.
Ouais.
dans tous les grands domaines du savoir, je te dirais. Là. Donc, c'est un équilibre entre les efforts dans le milieu de vie, donc pour l'améliorer, dans notre niveau de vie aussi, niveau de vie économique, mais niveau de vie en termes peut-être plus large aussi, donc sur ça peut être le niveau de vie social, bien-être, etc. Donc, on calcule pas juste là, en termes de dollars, donc on regarde ça comme ça. Et c'est aussi notre mode de vie, comment on interagit avec notre milieu, comment, dans le fond, on le respecte aussi. On va le voir, c'est soit avec l'engagement dans la communauté, la promotion des saines habitudes de vie auprès des personnes, parce que quand on parle de qualité de vie comme grande définition de développement durable, ben ça commence par les personnes. Donc, pour nous, c'est vraiment des efforts qu'on va faire assez de manière équilibrée dans chacun de ces axes-là, ce qui fait que on rejoint en bout de piste la définition traditionnelle là, du développement durable qu'on retrouve là, dans le rapport Brundtland ou autres définitions comme ça, donc, mais qu'on a adapté à notre réalité là, de l'Université Laval.
Oui. Puis l'Université Laval, c'est ben, forcément le berceau du savoir, donc c'est aussi transmettre la connaissance puissante, hein, qui aussi en termes de développement durable, c'est donner aux étudiants finalement ce savoir sur le développement durable pour qu'ils puissent l'utiliser ensuite dans leur vie d'adulte, peu importe ce qu'ils font. Donc c'est non seulement leur donner une qualité de vie pour en tant qu'étudiant, mais leur donner aussi les compétences et l'expérience pour que dans le futur, ils puissent effectivement poursuivre dans une démarche de développement durable. Vous faites ça comment, finalement?
Ben, on le fait, comme je te dis, on avait nos trois grands piliers, mais on les a déclinés sur des grandes orientations, des grandes catégories d'action. Donc, il faut qu'à un moment donné, ça se matérialise là, de manière un peu plus concrète là, pour les gens de la communauté. Donc, tu sais, on veut que nos étudiants soient des agents de changement là, pour leur communauté ou pour la société. Puis, la mission première d'une université, c'est l'acquisition et le transfert, dans le fond, de connaissances. Donc, on veut intégrer les notions de développement durable dans notre core business, si je prends un terme d'administration. Donc, c'est d'acquérir, d'initier les étudiants aux enjeux de développement durable en intégrant des notions de développement durable dans les programmes de formation. Par exemple, on a modifié notre règlement des études avec un objectif général, ce qui fait que tous nos étudiants à terme, on a à peu près 100 programmes de baccalauréat, donc chacun de ces étudiants-là doivent avoir été initiés aux enjeux de développement durable. Donc, ça va être fait de différentes façons. C'est aussi la promotion et la valorisation des efforts de nos chercheurs, donc nos chaires de recherche, nos centres de recherche aussi en développement durable. Ça, c'est notre grande mission. Après ça, on décline sous d'autres aspects, ce qu'on connaît plus traditionnellement en développement durable, plus environnemental, donc avec gestion de l'eau, gestion de l'énergie, matières résiduelles également, lutte au changement climatique avec la réduction des émissions de gaz à effet de serre. C'est aussi atteindre, viser l'équilibre financier à long terme de l'université, parce qu'une organisation qui parvient pas à faire ça, ben, elle restera pas là, dans le temps, là, à long terme. C'est tout ce qui est l'approvisionnement responsable et la consommation de biens et services de manière responsable également. C'est aussi promotion des saines habitudes de vie, comme je t'en parlais tout à l'heure, avec l'engagement social, et valoriser aussi la culture, la diversité, l'ouverture sur le monde l'améliorer notre milieu de vie en tant que communauté. Donc, c'est nos grandes catégories d'action, là, je te dirais.
Ouais. Justement, comme tu as dit, améliorer l'intégration dans la communauté, c'est-à-dire qu'on encourage les actions des étudiants dans la communauté proche ou à l'international même, parce que je suppose qu'il y a des nationalités différentes, donc ça permet d'ouvrir le scope des actions.
Tout à fait. Ben, comme on le dit, nos étudiants étrangers, ben, ils retournent chez eux par la suite. Donc, si on était capable de leur inculquer ces valeurs-là, ben, ils vont être capables de les ramener dans leur communauté. Leur communauté, ça peut être au niveau local, national ou international. Donc, c'est pour ça qu'on valorise beaucoup là, l'engagement social. Comme ça, c'est un trait où avec les s'ils ont adopté des comportements ici, que ce soit à l'université, ils vont les reproduire à la maison ou chez eux ou dans leur communauté également. Donc, on insiste beaucoup dans la sensibilisation puis d'amener les gens à poser des gestes par eux-mêmes. Donc, on n'est pas dans une démarche coercitive à l'Université Laval. On est vraiment dans une démarche pour amener les gens à agir, à prendre cette décision-là, parce qu'on croit que lorsque ça s'est fait, ben c'est un comportement qui est acquis, donc qui va se reproduire là, plus tard.
Oui. Alors, toi, tu as un sujet en particulier dont tu t'occupes, c'est la compensation carbone. Alors, déjà, qu'est-ce que c'est la compensation carbone et qu'est-ce que vous compensez?
Ben, c'est une bien bonne question. Ouais. Ben, écoute, ça s'inscrit dans notre axe qui est toute la lutte au changement climatique. Les émissions de gaz à effet de serre, ça contribue au réchauffement de la planète. Donc, il faut réduire les émissions là, qui sont dues là, à la présence humaine et à nos actions, nos comportements. Donc, l'université s'est vraiment dotée d'une démarche qu'on appelle notre route vers la carboneutralité du campus. On a un objectif à très long terme d'arriver à faire ça. Fait qu'on a mis une série de mesures en place. Donc, on a un programme de formation pour les gens. Donc, un micro-programme sur les changements climatiques. Donc, les gens, c'est notre mission première. On a aussi beaucoup de projets de recherche, que ce soit associés aux éoliennes, aux tourbières ou à d'autres éléments comme ça, où les gens, nos chercheurs, nos étudiants à la maîtrise, au doctorat, donc, peuvent trouver des réponses à des problématiques de société, donc d'innover de ce côté-là. Toute la mission encore première de transmettre ces connaissances-là, là, donc au milieu. Et ben après ça, il y a qu'est-ce qu'on peut faire dans les opérations de l'université. Mmh. Nous, ben on a une centrale d'énergie. C'est, comme je te disais, c'est une petite ville, notre université. Ouais. Ben c'est sûr qu'il faut chauffer en hiver. On n'a pas le choix d'en émettre des émissions de gaz à effet de serre en chauffant, mais on a des programmes de mesures d'efficacité énergétique. On a mis des mesures telles que l'implantation d'une chaudière de chauffage électrique pour diminuer nos émissions de gaz à effet de serre. C'est vrai qu'on a diminué d'environ 18% entre 2006 et 2010.
Votre source d'énergie, donc vous avez votre propre centrale?
Non. Donc, non. On acquiert l'énergie sous trois formes. Donc, le gaz naturel, c'est la principale source, l'électricité, puis très, très occasionnellement, le mazout. Donc, très occasionnellement. donc, parce que c'est bien d'avoir des options si des fois, il arrive un problème pépin avec une source d'approvisionnement. On ne peut pas se permettre, en tant qu'université, de ne pas être chauffé. Là. Donc, il faut avoir diverses sources là, d'approvisionnement énergétique comme ça. Donc, ça, c'est les opérations. On a beaucoup d'offres aussi de services pour tout ce qui est promouvoir le déplacement durable, donc le transport alternatif à l'auto solo. Donc, on fait ces efforts-là. Là, on se transporte tranquillement, pas vite, vers l'appel à ce que les personnes peuvent faire. Donc, je t'ai parlé tout à l'heure, ce que les opérations, ce que l'institution peut faire, mais à un moment donné, pour prendre les prochaines marches de l'escalier du développement durable pour aller plus loin, ben il faut que les gens nous aident comme ça. Fait que lorsqu'on promouvoit le transport en collectif, en covoiturage ou en vélo ou à pied, ben c'est une façon qu'on comprend pas son auto de réduire nos émissions de gaz à effet de serre. Mais il arrive pour toutes sortes de bonnes raisons que les gens doivent prendre leur voiture, donc c'est pas un mal nécessairement. Donc là, on a leur a proposé, c'est là qu'on a mis sur pied notre programme de compensation volontaire des émissions de gaz à effet de serre, qui est d'offrir à nos étudiants, à nos employés qui viennent travailler quotidiennement sur le campus, de compenser leurs émissions, d'accord, qu'on a évalué environ une tonne par année. Donc, ils peuvent ajouter un montant d'argent sur le coût de leur vignette de stationnement. C'est 17 $ pour compenser la tonne. Avec ça, on va planter 15 arbres additionnels à ceux qui étaient prévus à notre forêt Montmorency. Donc, nous, c'est notre forêt d'enseignement et de recherche qui est dans le parc des Laurentides.
Vous avez
donc
la chance de tout avoir sous la main, la recherche, la forêt.
On est chanceux comme ça. Et on a un appariement institutionnel aussi qui fait que si toi, tu te compenses un montant de 17 $, l'université va mettre le même montant pour favoriser, pour mettre en place des projets de réduction des gaz à effet de serre sur le campus qui sont plus concrets. Par exemple, un enclos sécurisé à vélo qu'on est en train, là, qu'on va mettre en place au cours de la prochaine année. Et ce programme-là s'applique aussi aux déplacements professionnels. Quand moi, par exemple, je dois me rendre à Montréal ou ailleurs pour une réunion d'affaires, puis je dois prendre ma voiture, à supposer que, ben je peux décider de volontairement, là, qu'on me rembourse, je sais pas, moi, 50 $ de frais de déplacement, qu'on me rembourse 48 $, donc le 2 $, je le prends de ma poche et ça s'est versé dans le fonds pour la plantation d'arbres, etc. Ça s'applique aussi pour nos étudiants en mobilité internationale. Oui. On a 1000 étudiants environ qui partent faire des stages, des séjours d'études à chaque année à l'étranger, donc c'est beaucoup d'émissions. Donc, on leur offre la possibilité de participer. Et le dernier volet, c'est nos événements éco-responsables. Donc, l'université, on a beaucoup de congrès, colloques qui sont organisés à chaque année. Donc, les congressistes qui viennent sur le campus, on leur offre cette option-là aussi pour que les organisateurs puissent mettre en place ce volet-là. Donc, c'est notre grand programme de compensation là, volontaire des émissions de gaz à effet de serre.
Qui concerne donc spécifiquement les émissions liées au transport?
Oui, c'est beaucoup, t'as raison, c'est le transport. Donc, c'est une mesure que les gens peuvent agir. Tu peux agir sur ton moyen de transport ou tu peux dire, si je ne suis pas capable de prendre un déplacement alternatif à l'auto-solo, je peux compenser. Je peux poser le geste quand même pour lutter contre les changements climatiques.
Justement, en termes d'événements, j'ai pu participer à de nombreux événements à l'université. C'est vrai que c'est vraiment très bien organisé. Et puis, il y a un guide spécifique sur les événements éco-responsables. Donc, ce qui fait que vous avez aussi beaucoup d'entités. C'est là où je voulais en venir, sur la décentralisation, c'est-à-dire le nombre d'entités sur l'université qui doit être un grand défi finalement
c'est notre
en termes de communication.
Effectivement, c'est un grand défi parce que c'est décentralisé. T'sais, nous, on a la direction de l'université a fait du développement durable une de ses orientations stratégiques prioritaires. Donc, c'est aidant. Les unités, les gens dans les unités voient bien puis se sentent concernés. Donc, on a dans l'ensemble, ça va bien. Dans les structures plus administratives, on arrive avec les gens à établir avec eux des actions qui peuvent être mises en place pour chacune des grandes catégories là, que je vous expliquais tout à l'heure. Donc, on est capable d'avoir un plan d'action qui est cohérent, qui est structuré, qui nous permet de progresser. Donc, pour chacune de ces actions-là, donc c'est avec les unités qu'on établit, ben qu'est-ce qui est possible de faire sur une période, c'est quoi notre cible qu'on peut atteindre avec, on a un indicateur de suivi, puis on fait ce suivi-là avec eux. Notre grand défi de sensibilisation à ce moment-là, on se dit tout à l'heure, c'est 50 000 personnes, c'est d'amener les gens à se sentir interpellés pour qu'ils pose un geste en développement durable, que ce soit en lutte au changement climatique, en consommation responsable, ou il y a d'autres options là, qui peuvent prendre. Donc, que ça les interpelle. Et ben nous, il y a environ 10 000 étudiants qui arrivent la semaine prochaine, et il y en a 10 000 autres qui sont partis au mois de juin à la collation des grades, environ. Donc, ce qui fait que...
Donc, sensibiliser en permanence.
Ben c'est ça. C'est un grand recommencement. Donc, il faut... C'est ça. Notre grand défi de sensibilisation est là, je te dirais.
D'accord. On va faire une petite pause musicale et puis on va revenir très bientôt. Every day's made of stone. Tonight I'm gonna see where I belong. Let the light out of sea shine upon me. I've made everything light, for this day I see the shore is blowing away. Everything's shining through. Oh, I want to roam tonight and every day. I want everything, I want everything. Oh, I want to roam, not afraid to say. I want everything, I want everything. Say goodbye on the key, I'm coming back someday. And your light is gonna shine on me. Could there be more to say? We shared so many times today. Secret of the world. All I wanna know everything. I wanna know what's right and wrong. All I wanna know everything. Wanna know where I belong. Oh, I wanna roam, not afraid to say. I want everything, I want everything. Oh, I wanna roam tonight, every day. De retour sur Troisième Planète sur CKIA 88.3 avec Pierre Lemay de l'Université Laval. On va parler d'approvisionnement responsable. On a dit tout à l'heure, il y a un grand nombre d'entités, je suppose encore plus de choses à acheter, d'éléments, de produits. Alors comment est-ce qu'on structure une démarche d'approvisionnement responsable quand il y a tant finalement de choses qu'on achète? Par où commencer?
Ben, il faut se poser la question, dans le fond, effectivement. Nous autres, c'est 125 millions de dollars environ de biens et services qui sont achetés chaque année là, à l'université. On a notre service des finances, on a des gens en approvisionnement qui sont là pour préparer les appels d'offres, accompagner nos gens des différentes unités. Mais il faut comprendre que c'est très décentralisé. Mm. On en a parlé tout à l'heure. T'sais, on a à peu près 200 unités administratives là, sur le campus, des facultés, des services, etc.
Donc, qui ont chacun leur petits acheteurs,
qui ont chacun des besoins qui sont différents, donc il y a des besoins communs, mais dans les facultés, ben là, il y a aussi tous les projets de recherche qui nécessitent souvent des affaires très spécialisées, très spécifiques. Donc, on a une équipe en approvisionnement qui accompagne les gens pour faire les bons achats. On a aussi beaucoup de réglementations à respecter qui nous proviennent du gouvernement et tout ça. Donc, on doit une reddition de compte qui est importante en approvisionnement, comment qu'on utilise là, l'argent des fonds publics. Donc, il faut respecter ces règlements. Donc, à l'intérieur de tout ça, on peut faire beaucoup de choses quand même. À l'université, on s'est rendu compte, il y a 5 ans environ, que c'était un enjeu qu'on voulait améliorer, l'approvisionnement responsable de nos biens et de nos services aussi. Ouais. Donc, on a engagé une conseillère en approvisionnement responsable qui a travaillé avec les acheteurs puis qui est là, qui dans le fond, a préparé un plan d'action pour nous améliorer de ce côté-là. Et avec les acheteurs et avec les différentes unités, ben elle a revu différents processus d'appel d'offres. Par exemple, tout ce qui est le mobilier, nous, on en achète quand même beaucoup, là, ou le matériel informatique, donc nos ordinateurs, par exemple, on en achète quand même beaucoup à chaque année. Et ben on s'est arrangé, par exemple, avec les appels d'offres, on a intégré des critères de durabilité à l'intérieur, ce qui fait que, par exemple, nos ordinateurs doivent respecter une norme nord-américaine qui est une norme IPIT. Là, je sais pas l'acronyme exactement qu'est-ce que ça veut dire, mais qu'ils doivent, par exemple, c'est qu'ils doivent être très performants en termes de consommation d'énergie. D'accord. Donc, nos ordinateurs sont achetés sous cette bannière-là, avec d'autres critères aussi de durabilité. Même chose pour les mobiliers, ben c'est des mobiliers, dans le fond, qui ont été faits de manière là, responsable, etc., des fois avec qui intègrent des matériels recyclés, etc. Donc, il y a toutes ces sortes d'appels d'offres-là, ben on les intègre, on les prend une par une et on fait ça. Et il y a beaucoup de sensibilisation qu'on doit faire aussi auprès des différents acheteurs, là, les gens qui sont les responsables de commander des trucs dans nos 200 unités administratives. Donc, il faut les sensibiliser, puis il faut leur donner des outils comme ça. Et on en a mis un en place, on achète beaucoup de choses, mais il y a des choses aussi qui deviennent désuètes, qui ne sont plus utiles pour l'université. Donc,
fin de vie des produits,
C'est ça. Donc, mais qui sont en fin de vie pour nous, mais qui peuvent être encore utiles. Donc, pareil. Et on a travaillé beaucoup sur cet aspect-là au cours de la dernière année. On a mis en place, je vais vous donner un exemple d'outil, puis c'est un de nos objectifs de cette année aussi, d'aller plus loin de ce côté-là, de bien sensibiliser nos gens. Mais on a mis en place un Kijiji local, si on peut dire, de nos biens et de nos biens. Ouais. Donc, on a appelé ça l'entrepôt UL. Donc, c'est accessible en ligne. Les gens peuvent aller le consulter. Donc, dans un premier temps, si moi, je suis la faculté de philosophie, par exemple, puis j'ai un ensemble de bureaux que j'ai plus de besoin. Donc, je l'installe sur mon entrepôt UL. Et si la faculté d'administration en a de besoin, ben elle peut l'acheter de la faculté de philosophie. Ça a l'air simple, mais la grande innovation là-dedans, c'est que les gens, des fois, ça permet de se parler, de bien évaluer les biens, ce qui fait que les sous qui sont de la revente de ce beau mobilier qui est encore utile, ben ça va dans les poches de la faculté qui peut le réinvestir dans d'autres biens aussi pour elle. Donc, ça, c'est un aspect qui était innovateur. Avant, ça allait dans le grand coffre de l'université, ce qui fait que les différentes unités avaient peut-être un petit peu moins d'incitatif à vouloir bien vendre leurs biens. Mais bon, c'est un détail administratif, mais qui est important dans mon histoire. Donc, ce qui fait que si au bout d'un, je pense, c'est 30 ou 60 jours, si on n'a pas vendu le beau mobilier usagé qui est encore bon, ben là, on l'offre à l'extérieur. Donc, monsieur, madame, tout le monde, les organisations à but non lucratif, etc., qui souhaiteraient l'acquérir, peuvent le faire en faisant une offre, etc. Donc, on distribue dans la communauté également. Donc, généralement, c'est vendu à un prix qui est très raisonnable. Donc, les gens peuvent acquérir, particulièrement des fois les OBNL qui n'ont pas beaucoup de sous, mais qui peuvent avoir, des besoins comme ça. Donc, c'est un exemple en approvisionnement responsable de qu'est-ce qu'on peut faire.
Et ça se passe aussi sur les services ou ça doit être plus compliqué sur les services?
Pardon? Ben, c'est les services. Ça peut se faire aussi dans les firmes d'ingénierie, l'architecture, etc. Donc, quand on fait de la conception de bâtiments, on peut travailler avec les gens aussi là-dessus pour que ce soit de normes de responsabilité sociale.
Là, vous avez donné l'exemple, par exemple, de l'ordinateur. Mais comment est-ce que vous avez choisi, comment vous avez fait le choix sur les produits sur lesquels vous vouliez travailler?
Ben, c'est beaucoup,
le volume,
je te dis...
ou... C'est le volume?
Ben, c'est ça. En partant, tu y vas sur, tu commences par les choses qui ont le plus d'impact en termes financiers ou en termes environnementaux. Ouais. Les ordinateurs, ben, c'est une grosse catégorie d'achat pour l'université, c'est évident. Ouais. C'est des postes de travail quand on a des gens, puis il faut changer les ordinateurs. C'est un bon exemple. Donc, même chose pour le mobilier de bureau. Donc, il y a beaucoup de trucs comme ça. Mais on a d'autres séries comme ça, là. C'est vraiment selon le volume, puis selon l'impact, là, que ça peut avoir.
Parce qu'on pourrait penser aussi qu'il y a certains produits donc, qui sont en petite quantité, mais qui peuvent avoir un grand impact finalement.
Oui,
là.
Aussi,
produits
donc,
chimiques. Ou...
Oui, ben, c'est ça. C'est toute une démarche qu'on peut appeler de laboratoire responsable.
Ben, c'est pour ça, ouais.
Donc, ça, on a beaucoup de sensibilisation aussi à faire. C'est normal. On a que dans les laboratoires comme ça. Puis, c'est normal d'utiliser des produits chimiques dans un laboratoire. Mais dans certains cas, ben, il y a des produits de substitution. Tu sais, que les gens peuvent prendre des produits qui sont moins nocifs pour l'environnement. Donc, quand c'est possible, soit par exemple, quand c'est des laboratoires d'enseignement, quand c'est un laboratoire de recherche, ça dépend.
Ouais.
Tu sais, parce que si t'as un protocole de recherche, très précis à respecter, ben, tu sais, on comprend que l'importance d'avoir peut-être un produit moins nocif, mais si tu as le risque de briser ton protocole qui te prend peut-être 2 ou 3 ans, donc le chercheur, ben, il est peut-être un petit peu plus réticent, puis je pense que c'est compréhensible aussi, mais tout ce qui est en enseignement, ben, par la suite, ça va avoir des impacts quand nos étudiants vont être des futurs chercheurs, etc. Si on apprend à servir de produits chimiques moins nocifs, là, ils vont pouvoir les appliquer dans les protocoles de recherche le plus facilement.
Alors, on a un autre programme dont tu voulais parler, c'est les saines habitudes de vie, on va dire, plus généralement, comment est-ce que...
Ben oui, mais c'est un autre exemple concret de comment qu'on peut décliner puis amener les gens à poser des gestes. Donc, dans un tout autre registre, dans le fond du développement durable, mais on revient sur le mode de vie. Donc, saines habitudes de vie des personnes, on l'a dit tout à l'heure, ça commence par la personne. Donc, on a mis en place un programme de sensibilisation pour les étudiants, mais ça touche les employés aussi. Donc, où on fait des interventions pour sensibiliser sur l'impact de l'activité physique, saine pratique d'activité physique, saines habitudes alimentaires, mais aussi tout ce qui est gestion du stress. T'sais. Donc, c'est quand même un enjeu majeur quand tu es un étudiant. Des fois, dans certains cas, il faut toujours que tu performes, mais des fois, tu as des enjeux de performance parce que tu dois être admis à la maîtrise, au doctorat, etc. Et donc, gestion du stress par rapport à ça, gestion du stress financier aussi, donc gestion du budget, puis dans troubles de sommeil, etc. Fait que c'est des aspects qu'on va travailler. Donc, on le fait avec une escouade d'intervention. À chaque session, on a une thématique qui se promène dans les différents pavillons, donc qui sensibilise. C'est des étudiants qui sont engagés pour faire ça, qui ont été formés. Exemple, on en a eu une à l'automne passé, c'était sur les impacts des boissons énergisantes. Ouais. Donc, on a sensibilisé beaucoup de personnes aux bienfaits ou malfaits, peut-être un peu plus, donc de faire attention, donc à consommer ces fameuses boissons. Donc, et vois-tu, cet automne, c'est un escouade qui va intervenir sur l'ergonomie au travail. Comment avoir des bonnes postures quand tu utilises ton iPad, quand tu utilises ton ordi portable, etc. Donc, pour des étudiants, c'est dans le day-to-day. Hein. C'est pas toujours évident de la manière qu'on le fait. Et on a mis en place aussi des cours de 1 crédit. Donc, ce sont des cours un peu plus petits qu'un cours standard à l'université. C'est environ 3 crédits.
D'accord.
Donc, et ces cours-là, c'est des cours sur les saines habitudes de vie. On en a 5 qui sont offerts à la communauté étudiante, dans le fond, qui veulent par cours à option, dans le fond, dans leur cours complémentaire, qui peuvent choisir ces cours-là et bien, en apprendre davantage sur ces notions-là. Donc, on a un portail monéquilibre.laval.ca qui permet de tout savoir ça, puis il est un guichet unique aussi en même temps sur tous nos intervenants qu'on a sur le campus qui agissent dans une ou l'autre de ces sphères d'intervention-là. Donc, parce qu'on a beaucoup, on est, comme je dis, c'est une grande ville, donc on a beaucoup d'intervenants comme ça. Donc, mais des fois, c'est plus difficile pour les personnes de savoir à quelle porte frapper pour aller chercher là, la ressource. Donc, de l'avoir une forme de guichet unique comme ça, bien, c'est aidant aussi.
Oui. Puis les 7 habitudes, c'est on commence à l'université, puis
on continue par après. Hein. C'est le dernier bastion, souvent, ce qu'on peut faire une sensibilisation plus globale aussi. Là.
C'est que finalement, les mauvaises habitudes, on risque de les faire perdurer quand on va travailler. En moment de stress, on va
reproduire. Voilà, donc d'où l'importance de bien les inculquer quand on est à l'université.
Oui, tout à fait. Justement, on a parlé de rentrée. Est-ce qu'il y a quelques actions particulières pour la rentrée des étudiants là, cette année que vous voulez mettre
oui,
en avant?
Oui, on a des nouveautés. Donc, on va axer beaucoup sur la conscientisation et l'appropriation par les étudiants et les employés. Donc, on met en place des ateliers midi où ce que les gens vont pouvoir venir se renseigner, par exemple, comment l'Université Laval fait la gestion de ses matières résiduelles, comment on intègre le développement durable dans la formation, ce qu'on va pouvoir présenter nos choses puis beaucoup interagir avec nos gens. On met en place aussi, on l'a mis en place au mois de mai l'année dernière, mais on va le faire connaître davantage à nos gens, un parcours de développement durable qui dure une heure où ce que nos gens peuvent venir voir plus concrètement aussi, voir qu'est-ce qui se fait en développement durable là, sur le campus. En même temps, ben, c'est très simple parce que tu prends une belle marge d'environ une heure là-dessus. Donc, c'est deux exemples. Puis, on a d'autres interventions, comme par exemple, il y a une collègue de matériel informatique usagé qui s'en vient aussi là, au mois d'octobre. Donc, à chaque grande thématique, gestion des matières résiduelles, développement international, Noël, on essaie d'avoir un projet qui permet aux gens de poser des gestes. Puis on va aussi, bien évidemment, promouvoir les mesures que je t'ai parlé tout à l'heure, donc ce qui est la consommation responsable, puis notre programme de compensation volontaire. Donc, on veut mettre l'accent aussi pour faire connaître. C'est notre grand défi de communication. Souvent, je reviens, bien, 10 000 personnes qui arrivent à chaque année, bien, il faut les informer.
D'accord. Ça, c'est des enjeux de sensibilisation. Est-ce qu'en termes d'opération, est-ce qu'il y a des travaux particuliers qui vont être faits dans l'université, qui ont un impact environnemental particulier ou
Bon. On continue toujours. Donc, à chaque fois qu'il y a un pavillon qui est en rénovation ou en construction, tu sais, on peut le voir là avec le PEPS, avec le projet d'agrandissement puis les rénovations, ben les gens du service des immeubles ben regardent comment ils peuvent intégrer les notions de développement durable à l'intérieur. Donc, on vient d'avoir l'agrandissement du PEPS. Donc, là, on est dans le fine-tuning. Là, les gens arrivent et tout ça. Ben tu sais, il y a des notions qui ont été intégrées. Par exemple, quand tu vas dans la douche au vestiaire, maintenant, tu te rends compte que c'est des touches qui sont beaucoup plus performantes en termes de consommation d'eau. Qu'est-ce qu'il y avait avant. Donc, c'est un exemple là, de choses qui est toujours en roulement continu. Là.
Bon. Ben, merci beaucoup. On a appris beaucoup sur l'Université Laval et son engagement en termes de développement durable, au-delà des opérations. Voilà. Marie-Michel, on l'aura peut-être une prochaine fois. Et sinon, eh bien pour nous, ça sera rendez-vous la semaine prochaine. En termes d'informations, bien sûr, je vais mettre un petit post sur le Facebook de Sekaya, faire un lien vers le site de l'Université Laval, où il y a plein de documentation en plus en ligne très intéressante. Pour peut-être vous connecter justement à l'approvisionnement, l'entrepôt UL, c'est ça? Voilà. Très bonne journée, merci, merci Michel. Et puis à la semaine prochaine.
C'est un petit bonheur que j'avais ramassé. Il était tout en pleurs sur le bord d'un fossé. Quand il m'a vu passer, il s'est mis à crier. Monsieur, ramassez-moi, chez vous, amenez-moi. Mes frères m'ont oublié, je suis tombé, je suis malade. Si vous ne me cueillez point, je vais mourir, quelle balade. Je me ferai petit, tendre et soumis, je vous le jure. Monsieur, je vous en prie, délivrez-moi de ma torture. J'ai pris le petit bonheur, l'ai mis sous mes haillons. J'ai dit, faut pas qu'il meure, viens-t'en dans ma maison. Alors le petit bonheur a fait sa guérison. Sur le bord de mon cœur, il y avait une chanson. Mes jours, mes nuits, mes peines, mes deuils, mon mal, tout fut oublié. Ma vie de désœuvrée, j'avais dégoût de la recommencer. Quand il pleuvait dehors, ou que mes amis me faisaient des peines, je prenais mon petit bonheur et je lui disais, c'est toi ma reine. Mon bonheur a fleuri, il a fait des bourgeons, c'était le paradis, ça se voyait sur mon front. Or un matin joli, que je sifflais ce refrain, mon bonheur est parti sans me donner la main. J'eus beau le supplier, le cajoler, lui faire des scènes, lui montrer le grand trou qu'il me faisait au fond du cœur. Il s'en allait toujours, la tête haute, sans joie, sans haine, comme s'il ne pouvait plus voir le soleil dans ma demeure. J'ai bien pensé mourir de chagrin et d'ennui. J'avais cessé de rire, c'était toujours la nuit. Il me restait l'oubli, il me restait le mépris. Enfin que je me suis dit, il me reste la vie. J'ai repris mon bâton, mes deuils, mes peines et mes guenilles. Et je bats la semelle dans des pays de malheureux. Aujourd'hui quand je vois une fontaine ou une fille, je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux. Je fais un grand détour ou bien je me ferme les yeux.
She's 15 and pregnant. This is too late.